Appâtage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On est le 19 avril en direct des studios. Si vous voulez nous joindre pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Sinon, vous pouvez nous écrire par mail à carapatage@riseup.net ou par lettre au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions et les ressources qui nous aident à les préparer sur le blog carapatage.noblogs.org. Alors, la thématique de ce... Non, je vais d'abord dire qui est là. Donc, moi, c'est Alix. Et au studio, on a aussi Henri.
Salut.
Et Kate.
Salut.
Et à la technique, on a Avril.
Salut.
Alors, l'émission de ce soir, on va parler de l'argent en détention. Mais avant, on va faire quelques brèves d'actualité. Puis, on passera à la thématique. Et après avoir parlé de l'argent, on... On aura une chronique sur la lutte contre les ESAT, qui sont des établissements d'accompagnement par le travail. Donc, pour les brèves, on va commencer par l'opération qui se profile à Mayotte, une opération bien dégueulasse.
Oui, alors du coup, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prévoit à partir de samedi 22 avril, donc ce samedi, de faire une grosse opération de reconduction à la frontière, donc autrement dit de déportation, donc qui s'appelle l'opération Wambushu. En maorais, ça veut dire reprise, donc voilà, on voit toute la symbolique qu'il y a derrière. Qui vise des personnes comoriennes vivant à Mayotte. Et le ministre de l'Intérieur, le ministère, s'est donné comme objectif de déporter jusqu'à 250 personnes par jour et 3000 en tout, c'est-à-dire ça représente 10% de la population de l'île. Ce que Darmanin fait, c'est un laboratoire de la répression à Mayotte, donc en Outre-mer, dans le contexte fascisant dans lequel on est et de celui de la nouvelle loi de l'immigration, sur l'immigration qui va passer à l'Assemblée. Ce que cette opération prévoit, c'est la venue de 500 policiers de France hexagonale et notamment des compagnies de CRS qui sont connues pour être très violentes, comme la compagnie de CRS numéro 8. L'opération prévoit aussi le fait que des logements illégaux, dits illégaux, vont être rasés et autour de ces logements-là, l'approvisionnement en eau va être coupé. Par ailleurs, pour empêcher que des témoins ou que la presse documente cette opération, la circulation de l'île va être coupée. Comme des logements vont être rasés, le préfet prévoit d'entasser dans des gymnases les personnes sans papier dont les maisons auront été détruites. On se souvient aussi que à Mayotte, il y a le plus grand CRA d'Europe et que la moitié des expulsions des territoires français ont lieu là-bas. Alors que le coût de la vie est très très élevé sur l'île, les SMIC et les RSA sont moins élevés que dans l'Hexagone. Et il y a par ailleurs un régime dérogatoire à la loi française. Les enfants nés de parents comoriens ne peuvent pas obtenir la nationalité française. On voit dans ce territoire ultramarin où il y a des politiques coloniales qui s'applique cette opération qui va être mise en place et contre laquelle il faut lutter. Il y a eu une manifestation la semaine dernière sur la place de la République et on espère qu'il y aura d'autres actions qui vont être mises en place.
Et Gaït, tu voulais aussi nous parler d'un assassinat policier qui a eu lieu dans un hôpital psychiatrique à Bruxelles.
Oui, mardi 21 mars dernier, il y a un patient qui a été tué par arme à feu par la police dans l'enceinte d'un hôpital psy à Bruxelles, où il était hospitalisé pour des soins contraints, contre son gré. Et donc, dans leur version, les flics ils disent qu'ils ont tué en légitime défense parce qu'il aurait brandi un objet, et les flics disent qu'ils pensaient que c'était un couteau alors que c'était pas du tout un couteau. Et du coup, à chaque fois, comme à chaque... meurtre commis par la police, voilà, il utilise la légitime défense. Et là, c'était un homme racisé de 49 ans. Et du coup, c'est aussi un crime raciste comme tout, enfin les crimes commis par la police aussi en dehors. Et c'était aussi pour rappeler que voilà, les HP, c'est des lieux d'enfermement. Et ça, c'est encore plus prégnant quand les personnes y sont enfermées contre leur gré, avec des soins qui peuvent être administrés de force, avec violence, des mesures sécuritaires et de surveillance, et où ils sont soumis à l'arbitraire des médecins. Et en fait, c'est renforcé aussi par le fait qu'en Belgique, le fait que la police soit présente dans les hôpitaux psy, c'est quelque chose qui est assez courant. Et en fait, les flics sont souvent appelés par les soignants au sein des hôpitaux psy pour régler pour les différentes choses qui s'y passent. Et du coup, on voit que voilà, ça aboutit à des meurtres par la police, et on a une pensée pour ses proches.
On voulait aussi revenir sur une manif qui a eu lieu le 9 avril. Donc c'était une manif sauvage qui a réuni environ 300 personnes en réponse à un appel flic hors de nos vies. La manif, elle partait de Croix-de-Chavaux à Montreuil et elle est allée jusque dans le 20e devant le bâtiment Garance qui appartient au ministère de l'Intérieur. La manif, elle s'est bien passée. Sur l'annexe du ministère de l'Intérieur, il y a eu ça s'est terminé par un gros tag à cap Darmanin assassin et par des œufs de peinture. Et tout le long du trajet, il y avait des tags et du collage. Cette manif, il y a eu des prises de parole lors du rassemblement Croix-de-Chavaux au départ. C'était notamment suite à ce qui s'est passé à Sainte-Soline le 25 mars. Du coup, tous les blessés, le fait qu'il y ait encore une personne qui soit dans le coma. Généralement, c'était contre les mutilations, les assassinats faits par les flics en règle générale, que ce soit en manif ou dans les quartiers.
Sinon, le 5 avril, il y a aussi eu une action dans un pôle emploi dans le cadre d'une séance de recrutement de la préfecture de police. Du coup, il y a un tract qui a été distribué par un groupe issu de l'AG du 9 mars contre la réforme des retraites, de l'assurance chômage, du RSA et contre la loi Darmanin 2. Et du coup, c'était une séance de recrutement pour de flics, en fait, notamment en vue des Jeux Olympiques et de la généralisation de la vidéosurveillance. Et du coup, on voit qu'il y a une pression qui est mise sur les chômeurs pour devenir flics plutôt qu'autre chose. Et donc voilà, il y a ce tract qui a été distribué pour dénoncer tout ça et dénoncer la mise au travail des chômeurs, notamment dans le cadre de fonctions répressives. Plus que jamais, plutôt chômeurs que contrôleurs, ou flics, ou surveillants.
Il y a aussi ces derniers temps plusieurs actions contre la politique migratoire menée par Darmanin et contre les exploiteurs du bâtiment. Déjà, il y a une quarantaine de boîtes d'intérim qui ont été redécorées, soit recouvertes d'affiches ou qui ont été taguées. Donc contre l'intérim qui se fait de l'oseille sur le dos des intérimaires et contre la loi Darmanin dont on a déjà parlé ici, qui prévoit de durcir les conditions, qui prévoit de renforcer les expulsions de personnes sans papier, de durcir les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, et prévoit la création d'un titre de séjour métier sous tension, mais qui serait un titre de séjour jetable, où la personne aurait son titre de séjour fortement relié à son travail. La loi Darmanin, avec le mouvement social, ils ont un peu dit qu'ils allaient la laisser de côté, qu'ils allaient refaire que les mesures consensuelles. Ce qu'ils appellent mesures consensuelles, c'est tout ce qui touche les expulsions. Apparemment, ils considèrent que tout le monde est d'accord avec ça. Du coup, c'est d'autant plus important de montrer que non. Et donc, il y a eu cette quarantaine de boîtes d'intérim qui a été recouverte. Et il y a aussi eu un envahissement de chantiers. Une cinquantaine de personnes qui ont envahi le chantier de la Tour Pleyel à Saint-Denis. Donc ça, c'était le 8 avril. Donc, qui ont envahi le chantier pendant 3 heures. Ce qui a permis de stopper une partie de l'activité pendant ce temps-là. Et voilà, ça parlait aussi du coup de la mort de Seydou Fofana, qui est décédé le 6 avril sur le chantier de la ligne 17 à Gonesse.
Et moi, je voulais aussi continuer en parlant d'une autre action. Et ça, c'est une action qui a eu lieu le 13 avril. Et cette fois, c'est les locaux de Spi Batignolles qui ont été envahis. Et donc, Spi Batignolles, c'est une entreprise de BTP qui se fait de la thune sur l'enfermement. Et avant ça, il y avait déjà eu une autre. Ça a fait suite à une autre action qui avait lieu en juin 2022, où c'est Jepsa qui a été envahi aussi. C'est aussi une entreprise qui se fait de la thune dans les différentes. Dans les différentes tôles. Et donc Spi Batignolles, donc c'est une boîte qui construit des prisons. La plus récente, c'est celle du centre pénitentiaire de Caen qui est censé ouvrir là en 2023 pour enfermer toujours plus avec ses 550 nouvelles prisons.
Et pour 550 nouvelles places.
Ouais, 550 nouvelles places. C'est mieux.
Et 550 nouvelles prisons, ce serait vraiment chaud. On le souhaite pas.
Et Spi s'est fait au passage de plus de 80 millions d'euros avec cette construction. Et ils avaient aussi construit avant ça des tôles à Riom, à Valence et à Beauvais. Et on la retrouve aussi dans toute la chaîne d'enfermement. Donc elle a aussi participé à rénover, à grandir le tribunal de grande instance de Strasbourg, construit des gendarmeries. Spi Batignolles, c'est aussi une entreprise qui participe à la politique raciste de l'État, donc notamment dans les foyers pour travailleurs, donc notamment le foyer ADEF à Cognières. Et elle est aussi intervenue dans les CRA, donc au CRA de Lyon et au CRA du Ménil dans le passé. Et donc voilà, c'était un envahissement pour rappeler que ces boîtes ne pourront pas tranquillement faire leur thune sur l'enfermement.
Du coup, malgré le contexte qui n'est pas hyper réjouissant entre ce qui se passe à Mayotte, les nouvelles lois qui arrivent, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, il y a quand même pas mal d'actions qui se passent, qui se sont passées en ce moment, et ça fait quand même assez plaisir.
Grave.
On espère que ça va continuer, et on va enchaîner justement avec l'agenda, parce qu'il y a pas mal de choses dans les jours qui viennent aussi.
Oui, alors pour commencer, vendredi 21 avril, à partir de 17h à la Trotteuse, donc c'est 61 rue Charles Nodier à Pantin, il y a une discussion sur la censure de la parole des prisonniers prisonnières, puis une cantine et des concerts organisés par L'Envolée, qui est un journal et une émission de radio contre l'enfermement.
Qu'on salue.
Et qu'on encourage à écouter. Et en fait, c'est aussi parce que fin janvier 2023, il y a le troisième numéro, leur numéro 56 qui s'est fait censurer. Et du coup, voilà, c'est pour parler de cette censure, de la censure des prisonniers, parce que c'est pas la première fois qu'ils se font censurer leur journal, c'est la troisième fois en 2 ans. Et donc, de s'organiser par rapport à ça. Et on vous mettra le lien de l'événement sur notre blog.
T'as dit l'heure ?
Ouais, j'ai dit à partir de 17h.
Ok. Voilà.
Et samedi qui arrive, là, dans 3 jours, il y aura à partir de 17h une discussion, une cantine et un karaoké en soutien à Boris. Alors, pour rappel, Boris, c'est un compagnon anarchiste dont on a parlé plusieurs fois dans la radio, qui, après avoir incendié une antenne relais dans le Jura, est passé par la tôle. Et il a été gravement blessé lors de l'incendie de sa cellule. Depuis un an et demi, il est tétraplégique et à l'hôpital. Et les thunes doivent servir à financer un fauteuil qui puisse lui permettre une plus grande autonomie, une plus grande mobilité et la possibilité de quitter le centre où il est actuellement. Alors ce sera à l'AERI, au 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, et vous pouvez retrouver l'invitation complète sur le blog.
Voilà, donc ça c'est le 22 avril.
Et le samedi 20... donc.
Ouais, samedi. Le 29 avril, samedi d'après, il y a une manifestation qui est organisée contre la loi Darmanin, étant donné que là, il commence à dire... Macron a dit cette semaine que sortir une loi immigration, c'était dans les priorités. Du coup, contre la loi Darmanin et contre aussi pour dénoncer l'opération qui est en train de se profiler à Mayotte, dont Henri parlait tout à l'heure. Donc ça sera le 29 avril à 14h, départ République.
Et pour le 1er mai et au-delà, les camarades de Serge, qui est une des personnes blessées à Sainte-Soline et dont le pronostic vital est toujours engagé, ils appellent face à la récupération des politicards de tous bords, face à la défaite programmée des directions syndicales, politiques... aux conditions de vie qui se dégradent aussi vite que d'autres s'enrichissent et où partout où on se soulève, on rencontre plus que la répression et la violence d'État comme réponse, où le capitalisme n'a d'horizon que la mort, la guerre et la destruction. Ils appellent à prendre l'initiative et à renforcer la lutte par les assemblées, occupations, manifs, grèves, blocages, sabotages. Et dans cette perspective... Ils appellent aussi toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans leur appel, que vous pourrez retrouver aussi sur le blog, à faire de la semaine du 1er mai une semaine intensive d'action contre l'État et le capital, au travail, dans les cortèges, sur les ronds-points, en dédicace à tous les camarades blessés, tués et enfermés, d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Non pas dans un sens symbolique ou mémoriel, mais bien dans l'objectif de lancer, relancer ou continuer des luttes auxquelles on participe.
On mettra du coup toutes les infos sur les dates à venir et ainsi que tous les communiqués qui sont sortis suite aux actions dont on a parlé dans les brèves sur le blog. Et avant de passer à la suite, on va écouter un petit peu de musique.
If they're civilized, I'd rather stay savage. Barbarians, beautiful and scaring them, earth shaking, rattling, be wild out loud again. We them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians. Say it again, beautiful barbarian. Say it again. These big lips, oh, they used to hate. Now the script lip, oh, hey, they got a lip kit. Kylie J, 100 real talk, that's what I'm on. If I'm a savage, then you're a fraud. My chain's off, won't be long. See me glowing, look at God. So fresh and so eloquent, I keep it humble and elegant, your beauty standard irrelevant, a revolution is so imminent, we keep it joyful and better when I see my mama as evidence, nobody needs your benevolence, what? Feminist planet is imminent, we them barbarians, beautiful and scaring them, earth shaking, rattling, be wild out loud again, we them barbarians, jasmine and frankincense, didn't start war over oil fields, opium, poppy seeds, money moves, Cardi B, tried to make me hate me from my hips and nose, now they got imposters on a spread in Vogue, not a single feature that they let us own, oh they packing fillers, styrofoam. Ultra light beam metaphysical, power no longer invisible, your beauty standard is cynical, oh, a revolution is so critical, power so deep and so mystical, they say the personal is so political, oh, women our future is winnable, we gotta be indivisible. We them barbarians, beautiful and scaring them, earth shaking, rattling, be wild out loud again, we them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians.
Decolonize this mind. Decolonize.
On vient d'écouter Barbarienne de Mona Edar et on est de retour sur Carapatage. Donc tout à l'heure, j'ai oublié, mais on a aussi Instagram si vous voulez.
Intolérable.
Donc @carapatage. Et vous pouvez toujours nous appeler au 01 43 71 89 40. Donc, on va passer à la thématique de ce soir qui est l'argent en prison. On avait envie de faire une émission sur l'argent parce que parmi les gens, disons, éloignés de la tôle ou ce qu'on peut lire dans la presse, il y a souvent l'image du mythe du prisonnier nourri, logé, blanchi, qui serait finalement mieux en prison, que ça serait plus simple d'être en prison que dehors. Et on avait envie un peu de déconstruire ce mythe-là. Et surtout que souvent, c'est plutôt l'inverse. Et être en détention, ça coûte de l'argent, à la fois à la personne, à la fois à ses proches. Donc, vous voulez réfléchir un peu à l'argent en prison et comment ça peut avoir, les conséquences que ça peut avoir, à la fois sur les prisonniers, les prisonnières et sur leurs proches. Et encore plus aujourd'hui avec l'inflation, enfin que toutes les problématiques qui déjà sont là d'habitude liées à l'argent en prison sont encore plus fortes. Le premier truc à savoir, c'est que l'argent liquide, il est interdit de circulation en prison. Donc pour limiter les trafics, c'est ça qui est dit. Donc il n'y a pas de billets, pièces normalement qui circulent. Tout achat fait par les prisonniers et les prisonnières doit transiter par un compte interne à la tôle qui est ouvert au moment où la personne est incarcérée. Donc ça, c'est pour ce qui se passe en théorie. Et du coup, dans l'émission de ce soir, on va d'abord parler un peu des cantines. Les cantines, c'est des sortes de magasins à l'intérieur de la tôle où la personne enfermée peut commander... sur un catalogue, enfin des bons de cantine, peut commander certains achats sur une liste fermée. On va aussi parler de la manière dont c'est possible d'obtenir de l'argent sur le compte interne dont je parlais tout à l'heure, donc que ça soit par le travail ou par l'argent envoyé par des proches, donc les mandats, ce qu'on appelle les mandats. Et on va aussi parler de l'économie informelle. Donc tout ce qui passe pas par ce compte-là officiel, mais qui existe bel et bien. Donc d'abord, Henri, peut-être tu vas nous parler un petit peu plus précisément de la cantine, parce que là, j'ai été un peu rapide.
Ouais, bah déjà, par rapport à la question de être en tôle coûte cher, c'est parce qu'il y a plein de services et de produits fournis par la prison ou fournis par des prestataires que les prisonniers doivent payer. On peut déjà commencer par la nourriture. Donc, il y a plusieurs repas qui sont servis en tôle par la prison, mais qui sont soit en quantité insuffisante, soit de mauvaise qualité, soit pas adaptés au régime des prisonniers, ou les trois. Donc, ce qui pousse les prisonniers à acheter de la nourriture par donc le biais de ces cantines là aussi quand on sait que psychologiquement c'est difficile d'être en détention et donc bien manger peut faire partie du fait de genre prendre soin de soi et essayer de passer une détention la plus potable possible quoi. Tu voulais dire un truc?
Oui, juste ces repas du coup qui sont fournis par l'administration pénitentiaire, c'est ce qui est appelé la gamelle.
Ouais, juste, ce qui est appelé la gamelle par les prisonniers, donc ce qui est assez significatif de la qualité de la nourriture qui peut être servie froid, dans lesquelles il peut y avoir des bêtes, enfin vraiment toute une quantité de choses qui fait que t'as pas trop envie de le manger. Il y a aussi la télé. J'ai vu dans les différentes recherches que j'ai faites différents tarifs, mais en gros on peut retenir que c'est autour de 15 euros par mois pour louer une télé. Dans les cellules, il est possible d'avoir un frigo aussi qui coûte entre 5-7 euros par mois. Et de manière générale, tous les produits dont on a besoin quand on est en prison, que ce soit des timbres pour écrire des lettres, des timbres donc de la papeterie, des stylos, du tabac si on fume, des vêtements, des produits d'hygiène, des produits de nettoyage de la cellule. Aussi le téléphone pour communiquer. Donc les prix en détention sont beaucoup plus chers qu'à l'extérieur. On en avait parlé dans notre émission sur les communications. On trouve des prix de 10 euros pour une heure d'appel vers les portables et 2 heures vers les fixes. Et c'est encore plus cher vers l'étranger. Il y a eu un rapport qui a été fait par le Sénat en 2002 qui estimait que vivre en prison coûtait environ 200 euros par mois. Donc là, on est 20 ans plus tard, dans un contexte d'inflation. Donc, je ne sais pas quel serait ce chiffre aujourd'hui, peut-être 300 euros par mois. Voilà, dans un contexte où les proches qui alimentent et qui donnent de l'argent pour soutenir souvent, la plupart du temps, les prisonniers, potentiellement ont aussi moins de fric, quoi. Voilà pourquoi vivre en prison et être en prison coûte cher.
Et du coup, moi, je voulais enchaîner en parlant un peu plus spécifiquement de la cantine et des entreprises aussi qui se font de la thune sur la cantine, parce qu'il y a certaines cantines dans des prisons qui sont gérées par des boîtes privées. Du coup, juste comme tu disais tout à l'heure, voilà, la cantine, c'est un sort de magasin interne où en fait, tu passes commande sur une liste et avec des bons de commande et ça demande d'avoir assez d'argent disponible sur son compte de la prison. Et en fait, le fait de pas pouvoir acheter la cantine, c'est aussi une sanction et en fait ça peut être une sanction qui peut durer jusqu'à 2 mois maximum de pas pouvoir faire d'achat à la cantine. Et c'est aussi quand on est placé au mitard aussi, c'est pas possible pendant la durée de la sanction d'acheter à la cantine. Donc généralement les bons de commande ils sont gratuits, mais il y a deux tôles où ils sont vendus par la paix, donc dans la maison d'arrêt du Puy-en-Velay et à Aurillac. Du coup il faut dépenser par exemple 5 centimes pour les bons de commande de tabac, de journaux, de produits frais, 20 centimes pour un bon épicerie et la liasse avec les 9 bons différents c'est 60 centimes. Du coup l'histoire de faire payer toujours plus aux prisonniers et aux prisonnières à l'intérieur, avec leur argument c'est la prétendue lutte contre le gaspillage de papier qui après était utilisé par exemple comme filtre à tabac ou pour écrire des correspondances, sachant que tout est cher et du coup c'était aussi un moyen d'avoir du papier, quoi. Et donc après, plus spécifiquement sur les cantines, du coup, soit elles sont gérées par l'administration pénitentiaire lorsque l'établissement, c'est un établissement où la gestion, elle est publique, soit c'est par une entreprise extérieure lorsque la tôle fonctionne en gestion déléguée ou en fait certaines fonctions dans la tôle, comme par exemple la restauration, sont confiées à des entreprises. Et généralement, les principales entreprises qui taffent là-dedans, c'est Sodexo, Gepsa, Elior, et une autre qui s'appelle Eurest. Donc en fait, dans les prisons où les cantines sont gérées par la paix, depuis 2012, il y a un accord qui a fait qui a réduit les prix des 200 produits les plus achetés et a fixé un prix pour toutes les tôles, à part en Corse et dans les territoires d'outre-mer. Allez savoir pourquoi. Et donc avant ça, parce qu'avant ça, les produits, ils étaient achetés dans les supermarchés les plus proches, ce qui fait qu'ils étaient, c'était super cher et qu'il y avait des grosses différences d'une tôle à l'autre. Et du coup, là, c'était pour harmoniser un peu et harmoniser avec le prix, la moyenne des prix les plus bas pour éviter les changements d'une tôle à l'autre. Mais ça, c'est sur 200 produits et ça ne touche pas d'autres produits qui peuvent être vendus par la paix et ça ne concerne pas non plus les fruits et les légumes. Et en fait, ces prix, ils sont aussi... ça peut être... Le prix des autres produits peut, lui, varier selon les prisons, et les prix sont modifiables tous les 6 mois. Et quand les cantines, elles sont gérées par des entreprises privées, donc c'est pas le même accord qui s'applique là. Et il y a d'autres accords qui sont passés dans ces taux-là qui limitent un peu le prix que peuvent faire payer les entreprises, mais ça les empêche pas de faire payer parfois super cher. Et donc en fait, les limites, c'est juste qu'elles sont censées aligner leur prix sur la grande surface la plus proche, mais ce qui fait aussi que en fait l'inflation ça a un impact, parce que en fait plus les prix augmentent à l'intérieur, plus c'est aussi une excuse pour ces entreprises d'augmenter leur prix à l'intérieur. Et elles doivent aussi limiter leurs bénéfices à 10% du prix en plus, quoi. Mais dans les faits, ça peut rester très cher. Et par exemple, il y a eu dans certaines prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour donner une idée, il y a eu un changement de prestataire privé. Donc c'est passé de Elior à Sodexo. Et en fait, le prix des produits ont énormément augmenté. Donc par exemple, dans le nouveau catalogue, il y avait par exemple le café qui a augmenté de 255%, donc qui est passé de qui maintenant coûte dans les 6 euros, alors qu'avant ça coûtait entre 1 et 4 euros, ce qui est déjà cher, et qu'il n'y a plus de produits premier prix. Du coup, ça est... Donc en fait, les prix de la cantine peuvent rester extrêmement chers à l'intérieur, même s'il y a eu des trucs qui limitent, ça peut rester ultra cher, et du coup, pour les détenus à l'intérieur, c'est compliqué d'acheter plein de trucs si t'as pas d'argent, quoi.
J'avais envie de dire un truc sur GEPSA en plus, donc une des entreprises privées prestataires des cantines. GEPSA, c'est une entreprise qui fournit plein de services à l'administration pénitentiaire, de services de prestataires, et notamment, donc ils font les cantines, ils font aussi la cuisine, la maintenance des locaux, et ils font aussi travailler 2000 prisonniers. Toutes ces informations-là sont écrites sur leur site, et c'est vraiment une entreprise comme plein d'autres, mais genre prédatrice, vraiment qui craint, quoi.
Et dans les frais qu'expliquent du coup les prix des produits dans les cantines, enfin il y a le prix du coup auquel ça a été acheté, mais il y a aussi tous les frais qui vont faire passer, comme l'acheminement, le stockage, le logistique, quoi, tous les frais logistiques qu'ils ajoutent et qui font répercuter sur le produit vendu dans la cantine, quoi.
Et du moment où c'est des prestataires et qu'ils ont la possibilité de se faire cette marge de 10%, bah en fait, les marges qui se font et les profits qui se font, bah, c'est sur le dos des prisonniers et de leur famille ou de leurs proches quand celles-ci les soutiennent, quoi.
Et la cantine, c'est vraiment un truc qui arrange la paix aussi, parce que ça va être l'amélioration des conditions, ce qu'on a dit un petit peu, enfin... Ça va permettre d'acheter des produits, de cantiner des produits pour améliorer un peu le quotidien, mais à moindre coût pour l'administration pénitentiaire. Du coup, pour eux, c'est un truc qui est tout bénef, parce que ça leur permet d'améliorer les conditions sans frais, aussi qu'il y ait un peu moins de scandales autour de la gamelle, parce que c'est pas juste améliorer en achetant d'autres produits pour réussir à cuisiner un peu, mais aussi la gamelle, c'est clairement insuffisant en termes de quantité et en termes de ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas... enfin, du coup, ça leur permet aussi le fait qu'il y ait plein de gens qui cantinent, ça soit un peu un cache-misère pour ce qu'eux donnent à manger sinon. Et voilà, et parce que ça sert de sanction aussi, comme Kaït a dit, comme tous les trucs qui améliorent un peu le quotidien en prison, ça va servir à sanctionner un détenu en l'empêchant de cantiner s'il ne se tient pas correctement.
Après aussi, truc qu'on n'a pas dit, ça me fait penser à deux trucs, c'est que d'une part, les produits qui sont vendus dans ces cantines, c'est la plupart du temps des produits très bas de gamme et qui sont vendus soit à des prix un peu plus chers que le marché. Il y a des endroits où c'est correct, hein, mais il y a vraiment des endroits où c'est un peu plus cher que dehors, voire vraiment beaucoup plus cher. Et c'est jamais non plus des produits de qualité de ouf. Et que ce soit les prix ou que ce soit la gestion des cantines, les erreurs sur les bons de commande, les erreurs de livraison, etc. C'est des gros sujets de tension dans les prisons et c'est des sujets compliqués pour les prisonniers quand en fait c'est un truc que t'attends pour juste améliorer ton quotidien et juste manger quoi.
Et donc depuis maintenant pas mal de mois dehors, on parle de l'inflation. Que voilà, les prix des produits, ils augmentent beaucoup. Et qu'il y a de plus en plus de monde qui a des difficultés pour se nourrir, se loger, payer les factures. Enfin, ce qui était déjà le cas avant, mais là, il y en a de plus en plus. Et du coup, en tôle aussi, ça a des effets. À la fois, ce qu'on disait tout à l'heure, que l'inflation à l'extérieur, elle va aussi se retrouver sur les produits à cantiner. Et à la fois sur l'argent qui va être envoyé par les proches, les mandats, du coup, en détention. Parce que les gens ont aussi moins d'argent dehors, du coup, moins d'argent à envoyer en prison. Surtout que on sait qui est enfermé et que généralement, c'est quand même des personnes plutôt précaires. C'est pas... Il y a des exceptions, mais ce n'est pas des gens à 10 000 euros par mois qui sont envoyés en taule.
La plupart du temps, oui.
Et qu'en plus, déjà, être enfermé, ça précarise la famille parce que souvent, il n'y a plus qu'un seul travail. Si la personne, elle travaillait avant son incarcération et qu'elle avait des personnes à charge, enfants ou autres, il n'y a plus moyen de vivre sur ce salaire-là. Il y a ce salaire-là qui saute. Parmi les proches, ça force aussi à se retrouver seule, avec des enfants parfois, avec les horaires de parloir, avec tout un tas de contraintes qui fait que ça peut, faire d'être obligé de travailler en décalé ou de travailler à temps partiel. Et donc, du coup, il y a déjà, avant l'inflation, déjà la prison, du coup, ça précarise... à la fois la personne et ses proches. Et là, avec l'inflation, ça peut être de plus en plus difficile d'envoyer de l'argent pour les gens à l'intérieur, plus les prix qui augmentent aux cantines, quoi.
Ouais, et sur l'inflation, à l'extérieur, il y a eu vite fait... Enfin, par exemple, il y a le gouvernement, à un moment, qui avait genre... donner une indemnité à inflation de 100 euros pour les personnes qui gagnent moins de 2000 euros par mois, ce qui déjà est absolument c'est rien quoi, 100 euros, mais en fait à l'intérieur ça c'est un truc où les détenus ont pas pu toucher cette indemnité comme si eux ils n'étaient pas touchés par les prix qui augmentent et le fait que en fait ils n'ont pas de thunes non plus à l'intérieur quoi. Et donc c'est aussi des genres de trucs on va en parler après, mais des aides sociales de tout qui est coupé généralement quand t'arrives en prison quoi, et voilà.
Et on va écouter maintenant Bébé Conte de Meryl.
Bébé Conte, Conte, Conte les billets sur la table. Bébé Conte, Conte, Conte les billets sur la table. Bébé Conte, Conte. Coule les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Hey, j'ai acheté la voiture, 13 000 euros, faut payer l'assurance. Bébé compte, acheter le terrain, construire la maison, faut payer les taxes. Bébé compte, Gucci, Burberry, Louis, dans la main, je veux de la concurrence. Bébé compte, battu pour ton dû, t'es visant de faut donner à l'État. L'argent est dehors, toutes les saisons, j'ai quitté la maison et j'ai raison. Je veux me refaire, j'aime bien me saper, papa a semé, faut partager. Mardi décembre, c'était la fête, 9 mois après, y'a bébé naissant. Petit bout de plastique, au bout de la digue, t'aurais fait faire les économies. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Bébé compte, 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 compte les billets sur la table. Bébé compte, 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 compte les billets sur la table. Bébé compte, 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 compte les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Ma femme appartient, arrive à l'église, faut payer la quête. Bébé compte. Pas les doigts d'être pauvre, même à découvert, faut payer la banque. Bébé compte, pour la sécurité, faut serrer la ceinture, les petits font la tête. Bébé compte, l'amour c'est gratuit, mais si t'aimes la petite, faut lâcher la rente. J'passe à la télé, je suis à pété, il veut me maquer. En vrai, j'suis fâché, mais j'm'en bats les couilles, ce soir j'vais tout claquer. Meilleur ouvrier, mais ça sert à rien si ton patron est bègue.
Moi je ramène le bain, une fois que c'est fait, je les prends en sandwich.
Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Les billets de 5, les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, billets de 200, c'est beaucoup d'enfants. Un peu pour l'avocat, un peu pour le comptable, un peu pour les impôts, un peu pour maman, un peu pour bébé, un peu pour la malade, un peu pour manger, le reste c'est pour vivre. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Les billets de 5, les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, billets de 200, c'est beaucoup d'argent. Bébé compte.
On est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter Bébé Compte de Meryl, une rappeuse exceptionnelle qui nous a donné un concert exceptionnel vendredi dernier dans la ville de Paris. Pour ça, on la remercie. Allez écouter son nouvel EP aux Aurores. Bref, elle est exceptionnelle. Si des gens sont d'un avis différent, écrivez-moi sur Instagram à Carapatage.
Et sinon, on va reprendre. Donc, de retour sur Carapatage, où ce soir, on parle de l'argent en prison. Donc, tout à l'heure, avant la musique, on parlait du fait qu'il y avait plein de choses qui étaient payantes en détention, contrairement à ce qui pouvait être entendu parfois, à la fois la télé, le frigo, que tout ça, c'était pas gratuit, et à la fois dans la cantine... donc, qui est le magasin à l'intérieur de la détention, où il y a différents produits qui sont vendus. Et d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit sur la cantine aussi tout à l'heure, c'est que une des différences aussi entre dehors et en prison, c'est que les gens, ils sont complètement dépendants de la cantine. Il y a le catalogue du coup de produits et ils peuvent... commander via ce catalogue, mais là où dehors c'est possible de faire plusieurs magasins pour essayer de trouver est-ce qu'il y a un produit qui est moins cher dans l'un ou dans l'autre, les gens ils sont complètement soumis au prix de la cantine, et s'ils veulent tel produit, souvent il n'y a qu'un seul je ne sais pas s'ils veulent de l'huile, il n'y a qu'un seul truc d'huile à vendre, et du coup ils sont dépendants du prix qui a été fixé
Il y a plein de produits que c'est pas possible d'avoir, ou il y a certains produits que tu peux commander que une fois par an, par exemple, genre des produits un peu spéciaux, genre de l'électroménager ou du matériel électronique, genre par exemple genre une radio ou ce genre de choses, un lecteur DVD. Ça me fait penser aussi dans la situation pour les prisonnières trans qui sont dans des prisons d'hommes, elles ont accès que notamment à des produits d'hygiène masculins, qu'à des fringues masculins. Etc. Et donc c'est aussi une autre situation pour laquelle c'est compliqué, parce que elles n'ont pas accès à genre ce qui est en dehors du catalogue de la cantine, mais dont elles auraient besoin ou envie, quoi.
Et c'est interdit aussi d'amener, enfin on y reviendra tout à l'heure, mais des colis alimentaires, c'est autorisé uniquement à Noël, où peut y avoir des dérogations pour certaines fêtes religieuses, mais le reste du temps c'est interdit pour les proches d'apporter à manger au parloir ou d'envoyer des colis de nourriture, ce qui fait que les gens sont encore plus soumis à ce truc de la cantine où tout achat entre autres de bouffe, parce qu'il n'y a pas que de la bouffe dans la cantine, passe forcément par là. Et du coup, maintenant, on va un peu parler parce que on a expliqué que ça passait via un catalogue de la cantine et des bons de commande, les bons de cantine. Mais d'où vient du coup l'argent ? Tout à l'heure, en intro de la thématique, on disait qu'il y avait des comptes internes qui était ouvert au moment de l'incarcération. Du coup, là, on va un petit peu parler de comment fonctionne ce compte, comment il est alimenté, comment c'est possible d'avoir de l'argent dessus.
Ouais, alors en fait, du coup, c'est l'administration pénitentiaire qui s'occupe des sous des prisonniers et qui a un contrôle total là-dessus. Donc, quand le prisonnier rentre en détention, il y a un compte nominatif qui est ouvert dans la sorte de banque interne à la prison. Et en fait, ce compte, il est divisé en trois parties. Il y a le pécule disponible, donc c'est-à-dire l'argent que le prisonnier peut utiliser à l'intérieur de la prison, notamment pour les cantines. Il y a le pécule partie civile, donc si lors du jugement de la personne qui est en prison, il a été décidé que des parties civiles devraient être payées, il y a une partie de cet argent-là qui est... Enfin, qui est mis sur cette partie-là du compte. Et il y a aussi un pécule de sortie. Et donc, en fait, il y a des seuils au-delà. Enfin, c'est pas le prisonnier qui décide quelle partie de l'argent va sur quelle partie du compte, enfin quelle proportion d'argent va sur quelle partie du compte, c'est décidé à l'avance. Le prisonnier ou la prisonnière généralement peut disposer que de environ 200 euros par mois et le reste est mis sur ses autres pécules. Enfin, à partir de 200 euros par mois, c'est calculé en fonction de en proportion, et une proportion est mise sur le pécule partie civile ou sur le pécule de sortie. Pour la petite anecdote, en cas d'évasion, en cas d'évasion, le pécule du prisonnier revient au trésor public, et s'il est repris, il doit faire une lettre au trésor public pour récupérer son argent. Voilà, pour le fonctionnement du compte interne à la prison.
Ce qui veut aussi dire que, enfin, peut-être qu'on y viendra après, mais que s'il y a trop d'argent qui est envoyé par les proches, par exemple, ou gagné par le travail, ça va forcément aller vers les parties civiles.
Ouais,
et du coup, c'est aussi un point sur lequel faire attention quand on envoie de l'argent à quelqu'un qui est enfermé, ou quand il y a plusieurs personnes qui envoient, de bien se coordonner pour pas que l'argent parte juste aux parties civiles sans que la personne envoie la couleur, quoi.
Ouais, bah du coup, moi, je vais continuer un peu sur... comment tu peux gagner de l'argent en prison, comment ça se passe pour avoir de l'argent en prison. Donc, une des manières de gagner de la thune en prison, bah, c'est par le travail. Donc en fait, mais le travail, c'est pas accessible à toutes les personnes qui sont en prison. Donc en fait, quand les prisonniers étaffent à l'intérieur, c'est soit pour l'administration pénitentiaire aux services généraux, soit pour des entreprises privées dans des ateliers qui sont situés dans la prison. Et un peu du coup, pour situer le travail en prison, en fait, c'est aussi utilisé le travail, c'est pas que pour que certains prisonniers puissent gagner de l'argent, c'est aussi un outil de gestion de la détention de la part de l'AP, et c'est un moyen de contrôle social, parce que c'est en fait l'AP qui va décider qui va avoir un travail, qui peut le garder, de quel travail il s'agit. Et en fait, on voit bien depuis tout à l'heure que l'argent, c'est un facteur essentiel, avoir de l'argent, et du coup, le fait de pouvoir mettre la pression sur un détenu pour qu'il garde ou pas son travail, et du coup pour qu'il puisse avoir de l'argent ou pas par ce biais, c'est un vrai pouvoir, c'est un vrai pouvoir qu'a la paix. Et aussi le travail, ça permet aussi d'avoir ça favorise aussi des remises de peine, on parle aussi des remises de peine, voilà, dans l'émission de Carabattage d'avant, ou comment le travail, ça rentre en compte aussi dans le fait de les avoir ou pas. Et donc ça, c'est du côté de la paix. Et pour les entreprises, en fait, le travail, c'est tout bénef, parce que c'est une main d'œuvre pas chère, flexible, à disposition pour les entreprises qui peuvent produire à moindre coût, et surtout qui peuvent faire et généralement, en fait, le travail en prison, c'est des tâches répétitives dont personne ne veut à l'extérieur. Et donc un peu sur les conditions de travail, comment ça se passe, et la rémunération. Donc en fait, il y a eu un changement en 2021, parce qu'en 2021, il y a eu une réforme. Mais du coup, avant la réforme de 2021, il n'y avait pas de contrat de travail. Ce qui fait qu'il n'y avait pas, par exemple, de droit aux allocations chômage, pas d'indemnité en cas de chômage technique. Il n'y avait aussi pas, pas d'arrêt maladie, pas de reconnaissance d'accident du travail. Il n'y avait pas vraiment d'encadrement de la durée du travail, pas de jours de repos garantis. Et pour le revenu, en fait, c'était généralement entre 20 et 45% du SMIC horaire. Mais en fait, dans les faits, la plupart du temps, les prisonniers étaient payés à la pièce, à l'intérieur, ce qui est censé être illégal, et avec aucune possibilité de s'organiser collectivement. Donc en 2021, il y a eu une réforme de la justice de Dupond-Moretti. Et en fait, le contrat de travail dans la réforme, c'est censé être le côté pseudo-social de la loi qui était une loi, dans les faits, toujours plus répressive. C'est aussi elle qui a acté dans le même temps la suppression des crédits de réduction automatique de peine. Et donc, en fait, avec ce contrat d'emploi pénitentiaire, donc ça encadre un peu comment tu accèdes au travail. Donc, ça va se faire, avec la réforme, ça va se faire en deux temps. D'abord, il y a un classement qui est fait par le chef de l'établissement. Et après, il va y avoir un sorte d'entretien de travail, quoi, entre le prisonnier et l'entreprise privée. Mais en fait, c'est un peu une façade parce que, dans les faits, en fait, ça reste toujours un outil de gestion de la détention et la paix a toujours du pouvoir où, en fait, ça soumet aussi l'accès et le maintien de pouvoir garder son travail au bon comportement en détention, de si tu te révoltes pas, de si, même en dehors de ton lieu de travail dans l'atelier, tu te comportes bien ou pas et tu peux être suspendu si on estime que... pour ce qu'ils appellent le bon maintien de l'ordre, de la sécurité de l'établissement. Donc voilà, ça reste toujours un outil de pression de travail. Et donc ce contrat, il ouvre quelques droits qui n'étaient pas possibles avant, comme le droit à l'assurance chômage, à l'assurance maladie, l'indemnisation quand il y a un accident de travail ou une maladie professionnelle. Pour autant, en fait, et ça encadre un peu la durée maximale du travail. Mais en fait, déjà, ça ne change pas la rémunération. En fait, tu es toujours payé à la pièce ou alors 20 à 45% du SMIC. Et ça rend les prisonniers à l'intérieur toujours plus flexibles, où en fait, la durée du travail va être adaptée complètement aux besoins des entreprises. Et en fait, le contrat peut être suspendu s'il n'y a plus besoin de ces prisonniers pour faire ce taf-là à un moment T. Et en fait, quand le contrat est suspendu, ben juste tu n'as plus de salaire et plus moyen d'avoir un travail pendant ce temps-là. Donc ça, c'était un peu sur le travail. Après, je vais aller plus rapidement, mais du coup, sur les allocations, sur un peu... sur l'argent, sur un autre moyen qui pourrait être de continuer à toucher les thunes des allocations qu'on touche à l'extérieur. En fait, quand on est incarcéré, donc ça suspend les droits au RSA. Donc le RSA, il va s'arrêter après le 60e jour d'incarcération. Ça suspend les allocations chômage dès l'entrée en détention. Et pour l'allocation adulte handicapé, en fait, elle continue à être versée, mais diminuée énormément, c'est-à-dire que ça peut être maximum 30% du taux plein dans la limite des droits antérieurs à partir du 60e jour d'incarcération. Du coup, globalement, on ne peut pas compter sur cet argent et il y a même des détenus qui se sont fait condamner pour avoir... toucher le RSA en prison alors que les droits sont normalement suspendus et qui ont essayé de faire des fausses déclarations. Donc, par exemple, dans la prison de Vendin-le-Vieil, il y a un prisonnier qui a réussi à toucher le RSA pendant 7 ans en faisant des fausses déclarations, mais qui a fini par être découvert. Et il y a un autre détenu qui a été condamné en 2015 à 6 mois prison ferme parce qu'il avait réussi à toucher le RSA pendant 2 ans quand il était en prison. Et un dernier moyen d'avoir de la thune en prison, c'est aussi par les proches. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les proches, quand t'es incarcéré, être proche, c'est aussi pouvoir, si on peut apporter un soutien économique aux personnes à l'intérieur, parce que l'argent, on en a besoin à l'intérieur pour avoir des conditions de détention un peu moins horribles. Mais en même temps, c'est difficile pour les proches parce que, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Ça met une grosse pression.
Tu perds déjà dans le foyer des revenus, les aides sociales, et que du coup, c'est vraiment difficile en plus de devoir donner de l'argent alors que généralement, les familles sont déjà précarisées par l'incarcération, par tous les frais que ça a pu être aussi avant, les frais de justice. Et du coup, ça rajoute aussi une pression économique énorme sur les proches.
Ce que tu disais sur les allocs, ça renvoie à Enfin, ça a fait le point avec l'émission qu'on avait faite sur le contrôle des allocataires, où on avait déjà parlé de ça. C'était il y a quelques mois et c'est sur notre site, donc n'hésitez pas à aller écouter si ça vous intéresse.
Et du coup, il y a l'administration pénitentiaire aussi qui va faire un peu semblant de se soucier quand même des prisonniers pauvres, qu'elle considère comme pauvres. Donc c'est des personnes qui sont sans travail au sein de la détention, parce que même si le travail en prison il est fait dans des conditions pourries où les gens ils gagnent pas grand chose, il y a quand même il y a quand même beaucoup de gens enfermés qui demandent du travail par rapport au poste à pourvoir, que ça soit dans les ateliers ou en tant que coxy. Et les personnes, du coup, qui sont à la fois sans travail et à la fois sans mandat parce que ils ont peu de proches ou que leurs proches n'ont pas moyen de leur envoyer de la thune. Et donc, la paix va mettre ce qu'ils appellent le système de l'indigence. Donc, l'indigence, c'est pour les prisonniers et prisonnières qui touchent moins de 60 euros par mois.
Ouais, moins de 60 euros par mois sur leur compte, en fait.
Ouais, moins de 60 euros par mois sur leur compte. Et du coup, ces personnes-là vont toucher 30 euros par mois pour pouvoir cantiner elles aussi. Et des dons faits par la tôle. Donc, ça va être un kit d'hygiène, la télé gratuite. Kit de correspondance, parfois il y a des vêtements, mais tout ce qui va être donné en plus des 30 euros par mois, c'est variable d'une tôle à l'autre. C'est selon, c'est selon ce que la direction de la tôle décide. Et du coup, ça peut fortement varier d'une prison à d'une autre. Pour pouvoir prétendre du coup à l'indigence, faut que la personne elle ait moins de 60 euros disponibles, qu'elle touche moins de 60 euros deux mois consécutifs. Ce qui veut aussi dire que s'il y a une rentrée d'argent qui arrive à un moment, il y a un proche qui là va pouvoir faire un mandat alors qu'il ne peut pas d'habitude, et du coup il y a une entrée d'argent qui arrive à un moment, la personne elle peut perdre l'indigence pendant plusieurs mois après. Parce qu'il y a eu plus de 60 euros à un moment donné. L'arbitraire qui est fait autour de l'indigence, de ce qui est donné en plus des 30 euros par mois et de ce qui n'est pas donné, de est-ce qu'on retire l'indigence ou pas, cet arbitraire-là, il est beaucoup dénoncé par plusieurs prisonniers et prisonnières. Et oui, du coup, je voulais aussi dire, je reviens en arrière, mais il y a un rapport sénatorial de 2002 qui estime qu'une personne enfermée a besoin de 200 euros environ par mois pour vivre décemment en prison. Bon, c'est pas ce qu'ils appellent décemment en prison, mais en tout cas, si même eux disent qu'il y a besoin de 200 euros par mois minimum, ça montre que l'indigence à côté, c'est quand même vraiment pas grand chose. Va y avoir de la solidarité qui peut exister, ça va aussi entraîner ça avec le co-détenu ou avec d'autres détenus qui vont filer du tabac ou cantiner un peu pour la personne. Parfois dans une logique de solidarité pour pas laisser l'autre dans la merde, mais parfois aussi ça va mettre la personne indigente en grande vulnérabilité, parce que du coup elle va être obligée de rendre plus ou moins des services pour pouvoir espérer que d'autres personnes lui filent de la thune.
Et du coup, tu voulais nous lire un extrait de Un peu de bon sens qui parle de ça.
Ouais, je vais lire un extrait de Un peu de bon sens que diable, du collectif La Brèche, qu'on a reçu lors d'une émission, que vous pouvez retrouver. Ça parle pas directement de l'indigence, mais ça parle un peu de l'argent et du manque d'argent. Qu'est-ce que ça peut faire en détention ? Parce qu'elle s'inscrit dans la logique et la logistique carcérale, la cantine entraîne plusieurs effets pervers. Elle rend payant le strict nécessaire qui ne devrait pas l'être. Elle renforce les inégalités au sein de la détention entre celles et ceux qui ont de l'oseille, de la famille, des réseaux de solidarité et celles et ceux qui n'en ont pas. Elle suscite convoitise et rapport de force lorsque la solidarité de base ne prévaut pas dans la détention. Enfin, elle favorise le développement du racket et du truandage entre taulards et taulardes pour obtenir des clopes, de la bouffe ou tout autre produit dont elle a besoin ou envie. Celui ou celle qui n'a pas de thune doit brigander à ses risques et périls, faire l'aumône ou s'acquitter de sa dette auprès du prêteur ou de la prêteuse en rendant des services. Ménage en cellule, prostitution, récupération et transport à l'intérieur de la zonze de produits stupéfiants ou illicites tombés en cours de promenade ou autres missions du même genre. C'est parfois bien cher payé lorsque ça se solde par du mitard, des peines supplémentaires ou des violences physiques et sexuelles.
Peut-être on s'écoute une petite musique ou
ouais,
t'as quelque chose à ajouter ?
Juste, ouais, juste préciser que bah, ça c'est aussi... Enfin, c'est aussi, je sais pas comment le dire, mais ce que fait l'existence de l'argent, que ce soit en tôle ou en dehors...
Ouais, en fait, le fric, ça va créer un rapport de pouvoir entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Et ceux qui en ont, bénéficient d'un levier vis-à-vis des autres, en fait, et genre peuvent demander qu'on leur rende des services. Ont en fait une forme de pouvoir. Les détenus qui sont plus soutenus peuvent avoir une forme de pouvoir vis-à-vis des autres et peuvent aussi, dans certains cas, en abuser, quoi. Enfin, c'est, il y a à la fois des cas de solidarité et il y a à la fois des trucs abusés comme à l'extérieur, et c'est l'argent, en fait. Enfin, c'est le fric qui crée ça, quoi.
Ouais, ce texte, il montre la forme que ça prend en prison, mais
qui est la même à l'extérieur, quoi.
Quelques formes différentes, parce que c'est pas la prison, mais ça va être aussi l'exploitation et aussi comment l'existence même de l'argent, ça entretient des rapports de domination et d'oppression entre des gens, quoi. On voulait aussi...
le dire.
Voilà, aussi le souligner et parler de ça dans l'émission, que... tous ces trucs qui entraînent l'argent à l'intérieur, c'est aussi des choses, ça va prendre des formes un peu différentes de l'extérieur, mais c'est aussi
la même logique.
La même logique qui se poursuit, ouais. Et du coup, on va écouter un peu de musique. Tu voulais, Henri, présenter
Ah oui, du coup, donc on écoute Johnny Low de William Elliott Wismore. Et c'est une chanson qui parle d'un contrôle routier donc par des flics, qui donne lieu à une garde à vue. Et il y a plusieurs phrases que j'avais envie de traduire, notamment « Le flic n'est rien sans l'uniforme et l'arme derrière lesquelles il se cache » et « Ne faites jamais confiance à un policier ». Voilà, on écoute Johnny Low de William Elliott Wismore.
Well, I was driving down the road just a minding my own when Johnny Law pulled up from behind. He walked up to my window and said, roll it down and let me see what I can find. I said, no way, what's mine is mine. I'd appreciate it if you leave me be. He said, I'll leave you be alright in a cell all night. I'll lock you up and throw away the key. He slapped them cuffs on my wrist and my hands clenched into fists. And I wished I could have punched him in the jaw and knocked out old Johnny Law. Old Johnny Law, Johnny Law, he's the littlest man I ever saw. With his badge and his gun, he'll just hassle everyone. He'll get you on the run, Johnny Law. He took me down to the state house and he hurled that book at me. And being in a cell is like being in hell for a man who longs to be free. I sat there and I wondered just
what gave this man the right to leave me to rot here on this rickety cot, just a staring at the ceiling all night. And I couldn't help but think of the words of my dear departed Paul. He said, do the best you can to be a good man, but don't you never trust Johnny Law. Oh, Johnny Law, Johnny Law, well, he's the littlest man I ever saw. With his badge and his gun, he'll just hassle everyone. He'll get you on the run, Johnny Law. Without any proof, they couldn't keep me there, so they let me out in the morning. And that cop said, son, I don't know what you've done, but just consider this a little warning. I said, it must take a lot of nerve to protect and to serve, but I wonder what it would be like if you didn't have that badge or that gun or that uniform to hide behind. And although I fear that this whole deal I got was pretty damn wrong, my conscience is clean, 'cause I'm a human being and you're just Johnny Law. Oh, Johnny Law, Johnny Law, well, you're the littlest man I ever saw. With your badge and your gun, you just hassle everyone. He'll get you on the run, Johnny Law. With his badge and his gun, he'll just hassle everyone. You'll never get me on the run, Johnny Law.
Vous êtes de retour sur Carapatage et ce soir, on parle de l'argent en détention. Avant de poursuivre, je vais redonner quelques contacts. Du coup, vous pouvez nous écrire par mail à carapatage@riseup.net ou par lettre au 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Donc ce soir, on parle de l'argent en détention. On a parlé un peu du système des cantines, des comptes internes, de comment on pouvait avoir de la thune pour alimenter ce compte-là, donc par le travail, par les mandats. On a parlé un peu de l'indigence. Et maintenant, on va parler de tout ce qui est aussi économie informelle, parce que ça, c'était plus l'économie formelle qui transite vraiment par le compte interne à la détention. Mais même si l'argent est interdit de circulation, il y a quand même toute une économie informelle en prison. Cette économie informelle, elle peut concerner déjà les produits qui sont exclus des cantines, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la cantine, elle a une liste bien précise qui va aussi varier d'une tôle à l'autre de produits à acheter. Mais il y a plein de produits qui ne sont pas. On va penser à l'alcool, aux médicaments, aux shit, à la viande aussi, parce qu'il y a très peu de viande. Il y a de la viande dans les cantines, mais il y en a quand même assez peu. Ce qui est téléphone, parce qu'il y a les téléphones dont on parlait tout à l'heure, qui sont les téléphones autorisés,
fixes.
Mais il y a aussi beaucoup de téléphones portables qui circulent. Et l'économie informelle, elle peut aussi concerner des produits qui vont être vendus aussi en cantine, mais qui sont vendus chers et où du coup, ça revient à moins cher de les faire passer par le parloir, par exemple, ou d'autres trucs. Donc, on comprend bien pourquoi les gens préfèrent ne pas passer tout le temps par la cantine, y compris pour des produits autorisés. Même si souvent l'économie informelle, je pense que ça concerne quand même plus des choses qui ne sont pas trouvables dans la cantine.
Et il y a un maillon important de cette chaîne de l'économie informelle en tôle, ce sont les matons. Nous arrivons dans la partie sensationnaliste de cette émission. J'ai épluché tous les faits divers de la presse régionale pour vous livrer le meilleur de matons qui font des petits trafics de manière très lucrative, on va pas se mentir. Et il y en a une vingtaine par an qui font l'objet soit de procédures disciplinaires, soit de procès. Et il y a beaucoup d'articles qui sont faits à cette occasion. Voilà, c'est des matons qui font rentrer des produits interdits en détention, moyenne en finance, et qui permettent qu'il y ait que les prisonniers aient accès à des téléphones, à de l'alcool, à des drogues, enfin que on peut pas trouver d'autres manières en prison. Dans ces articles que j'ai épluchés. Parfois, les syndicats de matons sont interrogés et ils disent que les collègues qui font ça, leurs collègues qui font ça sont fragiles psychologiquement ou qui sont tombés dans des engrenages ou qui se font menacer par les prisonniers. On leur rappelle qu'ils peuvent toujours changer de métier. Vraiment, faut pas hésiter.
Puis surtout, ils font ça pour la thune. Quoi.
Et voilà, ils font ça pour la thune. Et j'y viens, puisque il y a un surveillant de Val-de-Reuil en Normandie qui a pris 2 ans ferme fin 2022 dans le cadre de vente qu'il faisait à des prisonniers. Et lui, il dit à son procès très, très calmement que le pactole qui s'est fait en vendant des trucs à des prisonniers lui a permis de faire des travaux dans sa maison et de réparer sa voiture. Donc voilà, tout ça sur le dos des taulards, donc on va peut-être pas le plaindre. Et parfois, ces objets-là qui sont interdits, et ce sort de commerce-là, ils passent aussi par les employés des prestataires dont on parlait tout à l'heure, comme c'était le cas à Fleury en 2018, où il y a eu un procès qui a aussi concerné des employés d'Elior qui faisaient la cantine et les cuisines. Voilà pour la partie des petits trafics des surveillants.
Moi, je vais continuer aussi sur l'économie informelle en parlant aussi des proches qui peuvent ramener des produits, des objets qui vont servir à rendre la détention un peu moins insupportable et les amener au parloir. Donc, on t'évoquait ça tout à l'heure, Alix, mais un des trucs que les proches vont essayer de ramener en parloir, ça va donner de la nourriture, alors que c'est interdit. Mais voilà, pour essayer un peu de ramener la nourriture, ça peut être soutenir moralement la personne qui est à l'intérieur pour faire plaisir, parce que aussi la nourriture est insuffisante. Et c'est interdit et les proches essayent de mettre en place différentes stratégies, mais en fait si c'est découvert, il y a plusieurs sanctions qui peuvent avoir lieu, et notamment généralement des suspensions de permis de visite. Donc un peu pour donner une idée, dans une maison d'arrêt, des permis de visite ont été suspendus par exemple 15 jours pour avoir introduit des chewing-gums, 1 mois pour avoir apporté un hamburger, ou alors 2 mois pour avoir apporté des bonbons au parloir à la personne qui était à l'intérieur. Il y a aussi régulièrement des contrôles par des flics devant les prisons, au moins avant les parloirs, pour essayer aussi sinon de trouver des produits stupéfiants. Donc par exemple, avec notamment des chiens, donc c'est toujours une bonne ambiance avant de commencer un parloir, d'avoir des chiens antidrogue qui reniflent tes affaires et d'être fouillés avant de rentrer au parloir pour voir ton proche, enfin pour voir la personne que t'es qui est à l'intérieur. Et la PEC, dans sa lutte contre ces trafics dans les parloirs, elle met en place d'autres moyens. Donc, par exemple, à la prison de Muret en 2022, pendant un long moment, la PEC a laissé des grandes tables qui empêchaient les contacts physiques entre les proches. Et en fait, ça avait d'abord été mis en place pour le Covid et ça avait été laissé après avec un discours de lutte contre le trafic. Mais ce qui fait que voilà, les gens ne pouvaient pas prendre dans leurs bras leurs proches, avoir un contact physique avec eux, ce qui rendait les parloirs difficiles. Et donc, en fait, voilà, cette lutte de la paix contre ce qui pourrait être introduit pendant les parloirs, c'est aussi un moyen de contrôle, de mise sous pression des proches. Et à ça, ça s'ajoute les fouilles des détenus à la sortie des parloirs. Donc, les fouilles à nu des détenus qui sont pas censées être systématiques, mais qui, dans les faits, sont souvent systématiques. À chaque sortie de parloir, il faut que les prisonniers soient fouillés à nu pour vérifier qu'ils fassent rien rentrer à l'intérieur. Et donc, c'est aussi un moyen de pression, d'humiliation. D'humiliation des gens à l'intérieur.
Je pense en ça, on peut aussi dénoncer l'hypocrisie des matons là-dessus, puisque je disais il y a 5 minutes que visiblement les matons font rentrer beaucoup de trucs et se font du fric grâce à ça. Mais par contre, les revendications de leur syndicat, ça va être beaucoup. Enfin, des fouilles des détenus à la sortie des parloirs en disant qu'il y a des trucs qui rentrent dans les parloirs, alors même que eux, leur propre profession fait rentrer des trucs en tôle, quoi.
Faudrait pas qu'ils perdent l'argent qu'ils arrivent à gagner avec leur petit trafic.
Exactement.
Quoi. Et après, donc, une autre manière de faire rentrer des choses à l'intérieur, ça va être par des paquets qui vont être lancés, envoyés au-dessus des murs des tôles et qui vont être récupérés par les prisonniers à l'intérieur. Donc ces petits paquets, en plus, il y en a eu encore plus pendant notamment le Covid, quand il n'y avait plus de parois, parce que c'est un moyen d'envoyer du soutien, des choses qui vont rendre la détention un peu moins dure. Et en fait, la lutte de la paix contre ces paquets envoyés au-dessus des tôles et les gens qui les envoient, ça passe par des mesures, notamment des mesures toujours plus sécuritaires autour des prisons, avec par exemple la création des ELSP, donc c'est les équipes locales de sécurité pénitentiaire. Donc c'est une équipe de surveillants qui peuvent porter une arme et qui peuvent intervenir aussi autour des prisons et interpeller les gens autour des prisons. Il y a aussi la mise en place de nouveaux grillages de 6 mètres de hauteur pour empêcher d'avoir accès au pied du mur d'enceinte, et donc des grillages qui peuvent être situés à plusieurs dizaines de mètres du mur d'enceinte, ce qui fait que c'est impossible, ça devient dur de se rapprocher, même si en fait dans des Toulouse ça a été mis en place, par exemple à Nancy, c'est très fréquent que en fait ces grillages soient découpés, et donc que la paix soit constamment obligée d'essayer de réparer ces grillages, et avec des mises en place de clôtures de plus en plus sécurisées, avec aussi de la vidéosurveillance qui est de plus en plus installée. Et donc ça empêche à la fois des paquets de rentrer, mais ça permet aussi à la paix d'empêcher d'autres formes de démonstrations de solidarité qui peuvent avoir lieu autour des tôles. Une autre mesure sécuritaire de la paix contre ça, ça va être la mise en place de filets de protection au-dessus des tôles pour pas que les paquets puissent atterrir dans la prison, voire même un dôme anti-projection au-dessus des espaces de promenade dans la maison d'arrêt de Belheim à Périgueux, ou alors des caillebotis aux barreaux des cellules pour empêcher les prisonniers de remonter ces paquets à travers leurs fenêtres. Et donc ces caillebotis, généralement, quand ils sont installés dans les prisons, à certains endroits, ils vont être régulièrement découpés. Mais en fait, on peut se douter que en fait, ces installations, que ce soit le dôme, les filets, les caillebotis, ça rend la vie à l'intérieur encore plus difficile. Et notamment, quand il fait chaud, ça peut devenir particulièrement insupportable. Et un dernier petit truc qui est mis en place contre ces paquets, c'est aussi... il y a eu des cas de
paquets qui sont arrivés en tôle par drone.
Voilà, c'est ça, des paquets qui sont arrivés en tôle par drone, notamment à Fresnes. Donc il y a déjà tout un système anti-drone qui a été mis en place, des appareils de brouillage d'ondes. Mais aussi depuis octobre 2022, depuis qu'un drone a quand même réussi à rentrer dans l'enceinte de la prison, les matons demandent toujours plus d'équipement, comme à chaque fois. Et notamment, ici, ils demandent un pistolet anti-drone avec des filets pour les capturer, parce que toujours plus d'équipement.
Non, mais ils se sont créés dans un jeu vidéo, en fait. Enfin, genre.
Les sanctions contre les gens qui lancent ces paquets, ça peut être de la prison ferme ou avec sursis jusqu'à un an et 15 000 euros d'amende. Quand même.
Peut-être pour finir sur cette partie, on voulait aussi dire que, de manière générale, passer par la tôle peut créer des gros problèmes de fric.
Ouais, que comme on en avait déjà parlé sur le suicide, le fait que dans l'émission sur le suicide, que la prison, ça s'arrête pas le jour... de la libération, enfin les conséquences de l'enfermement, elles continuent aussi par la suite. Là, c'est la même chose, comme on disait tout à l'heure. Déjà, ça appauvri le fait de passer par la prison. Et le jour de la libération, il y a le pécule de sortie dont on parlait tout à l'heure, mais qui est pas qui est une petite partie que la personne peut des fois avoir réussi à mettre de côté pendant sa détention, mais généralement c'est pas grand chose. Et il y a toutes les difficultés financières qui peuvent être rencontrées à la sortie, comme la personne souvent elle a perdu son travail, du coup il va falloir retrouver du travail. Quand la peine elle a été un peu longue, ça peut être compliqué de justifier qu'il y a un trou sur le CV. Quand la peine elle a été plus courte et qu'il y a pas que la personne elle vivait seule, des fois elle va avoir gardé son appart si c'est pour une courte peine, et du coup il a fallu payer le loyer même si elle avait plus de revenus pendant cette période là donc il y a plein de choses qui font que finalement les gens ils sont dans des situations encore plus compliquées à la sortie de la prison que quand ils sont rentrés. Et c'est pas rare de voir des gens quitter la prison et se retrouver à la rue ou monter faire un braquage tout mal ficelé parce que en fait il y a l'obligation là de trouver de l'argent rapidement au moment de la sortie. Et voilà, et ça montre aussi tout ce qu'il y a de faux dans tout le discours qui va être dit autour de la réinsertion des personnes enfermées, où finalement les gens, il y en a plein qui sortent sans rien et avec pas forcément de solution, ou hébergés dans de la famille au moment de leur sortie. Voilà, donc ça montre bien à quel point c'est hypocrite de parler de réinsertion quand on voit à quel point la prison ça appauvrit les gens et que ça précarise encore plus.
Voilà à peu près ce qu'on avait à dire sur la grosse moula et la prison, quoi.
Donc par la suite on va passer à une petite chronique tout à l'heure, mais en attendant on va écouter Money 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 de ABBA.
Too bad. In my dreams, I have a plan. If I
pas sur Nostalgie ni Chérie FM, mais bien sur Radio Libertaire dans Carapatage, l'émission à la programmation musicale la plus éclectique. C'était Money 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 de ABBA.
Et donc ce soir, on a parlé de l'argent en détention. Et on s'est rendu compte pendant la musique qu'on avait oublié en préparant de parler d'un petit truc qui était, on a beaucoup dit que l'argent liquide, du coup, c'était interdit de circulation en détention. Mais du coup, tous les trafics dont on parlait...
tous les achats de produits
tout à l'heure, à la fois, ça peut être quand même via de l'argent liquide ou souvent... par des cartes prépayées PCS qui, du coup, vont permettre de la circulation de l'argent de façon immatérielle dans la tôle, quoi. Et avant de finir cette émission, on a Henri qui nous a préparé une petite chronique sur la lutte contre les ESAT, du coup, les établissements d'accompagnement par le travail.
Oui, en fait, on a pas mal parlé des ESAT ces derniers temps. Notamment dans le cadre là des gros mouvements de grève qu'il y a eu ces derniers mois, parce qu'en fait les ESAT qui sont en fait des usines pour personnes handicapées sont des endroits où il n'y a pas de droit de grève, où en fait la grève est interdite, n'est même pas prévue par le droit, quoi. Pour faire cette chronique, je me suis basée sur plusieurs publications du compte Instagram Chienne à Punk, qui a fait plusieurs publications qui s'appellent « Pourquoi faut-il lutter contre les ESAT ?» ces usines pour handicapés sont gérées par des assos gestionnaires, comme l'UNAPI, qui sont en fait des assos qui se vantent de défendre les droits des personnes handicapées, mais qui en réalité les exploitent, leur font subir une exploitation économique et nombreuses discriminations. Je trouvais ça aussi important d'en parler dans Carapatage, parce qu'en fait, il y a un lien avec la lutte anticarcérale, entre les luttes handi et les luttes anticarcérales sur la question des ESAT, parce que les personnes handicapées subissent un enfermement dans les ESAT, et les conditions de travail, les rémunérations, etc., sont similaires au travail en détention dont parlait Kate tout à l'heure et dont on a parlé dans plusieurs émissions. Les personnes qui travaillent en ESAT ne sont pas considérées comme des travailleurs, elles sont considérées comme des usagères, ce qui permet des conditions de travail et de salaire déplorables. Même si les personnes travaillent 35 heures par semaine, il y a leur salaire est environ de 700 euros par mois, puisque l'ESAT paye 11% du SMIC aux travailleurs et que le reste est complété par l'État. On leur verse ce salaire de environ 700 euros par mois pour 35 heures de travail, voire plus. Pendant la durée de leur carrière, ce salaire est complété par l'AAH. L'allocation adulte handicapé dont on a aussi parlé tout à l'heure, sauf que cette AAH n'est pas pris en compte pour le calcul de la retraite, et donc ce qui fait que ces travailleurs se retrouvent par exemple soit sans retraite, soit avec des très petites retraites, par exemple de 200 euros par mois. En plus de ça, il n'y a pas de cotisation au chômage, il n'y a pas d'indemnité de licenciement, pas de droit de grève et pas le droit de se syndiquer. Il y a 1500 établissements ESAT partout en France, dans lesquels travaillent 120 000 travailleurs handicapés. Et depuis que l'année dernière, il y a un livre sur ce sujet-là qui est sorti, qui s'appelle « Handicap à vendre » de Thibaut Petit. Il y a une sorte de libération de la parole qui se passe, et ce mec-là qui a écrit ce livre, il a reçu depuis un an pas mal de témoignages. Donc on vous mettra toutes les ressources sur le site, mais si vous voulez lire plus d'infos là-dessus. Mais en gros, les travailleurs des ESAT témoignent de beaucoup de menaces de la part des directeurs et des moniteurs, de placements sous curatelle forcés, etc. Donc voilà, il y a vraiment des traitements abusifs dans ces ESAT avec des objectifs de productivité. Voilà, donc c'est un travail comme similaire à celui en détention, qui sont voilà une exploitation d'une main d'œuvre sans droit quoi. Voilà, on vous mettra tous les liens pour que vous puissiez plus vous renseigner sur tout ça.
Et du coup, on arrive à la fin de l'émission pour ce soir. Juste redonner quelques contacts, donc carapatage@riseup.net ou à carapatage 4 Villa Stendhal 75 020 Paris ou sur Instagram @carapatage. La prochaine émission, c'est le 3 mai, donc on se retrouve le 3 mai. Et en attendant, force et courage à toutes et tous à l'intérieur et aux proches à l'extérieur.
Bonne soirée.
Salut.
Bonne
soirée. À salut. Plus.
Salut. Et on va se quitter sur Wildfires de Salt.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage
contre toutes les cages.